Bernard Sévigny, bonjour.
Bonjour Louis.
Alors, ce qui préoccupe énormément, d'ailleurs, il y a une conférence de presse à 11h ce matin à laquelle vont participer Valérie Plante, également Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique. C'est fusillades à répétition à Montréal, notamment celle de Rivière-des-Prairies qui a fait 3 morts. Là, la police de Montréal dit que assez, c'est assez, mais est-ce que c'est la solution, la répression policière?
Pas véritablement, en tout cas pas complètement, Louis. Puis effectivement, c'est extrêmement préoccupant. Il y a une vingaine d'événements là juste en juillet à Montréal et à Toronto, on le constate depuis quelques années. Là, il y a une flambée et également des fusillades. Mais vois-tu, il y a une relation assez directe entre ces phénomènes de criminalité-là, gangs de rue, trafic d'armes, drogue, fusillades et le niveau, je dirais le niveau de pauvreté dans les quartiers, pauvreté financière, de perspective d'avenir des jeunes, pauvreté dans l'organisation des services, autant de loisirs, d'infrastructures, par exemple. Donc, on peut pas perdre de vue cet élément-là que c'est lié à des conditions socio-économiques. Maintenant, les policiers, les forces policières, de façon générale, ont raffiné leur approche. On peut pas leur reprocher là, de ne pas vouloir se donner des stratégies. Sauf que tant et aussi longtemps que ces stratégies-là, ces approches demeurent dans une perspective de réaction, ouais. C'est difficile de venir à bout d'un certain nombre de formes de criminalité. C'est nécessaire, cela dit. C'est nécessaire d'avoir des forces policières qui sont bien alignées en phase avec les formes de criminalité, mais c'est pas suffisant. Et l'idée d'embaucher des policiers pour contrer ce phénomène-là, c'est sympathique. Ça, sur le plan de la perception, oui, ça prend plus de policiers. À court terme, évidemment, ça peut avoir un impact dans un quartier en particulier, mais bien souvent, la criminalité, le phénomène, le problème va se déplacer parce que la criminalité, c'est organique, là, c'est pas statique, mais à moyen et à long terme, ce n'est pas la solution. Et on le voit par les chiffres à Montréal. C'est là qu'on retrouve le plus de policiers par habitant dans les grandes villes canadiennes et avec des équipes spécialisées. Et c'est clair que quand on compare avec les États-Unis, vois-tu, dans certaines villes américaines, il y a beaucoup plus de policiers qu'au Canada et il y a beaucoup plus de criminalité aussi. À certains endroits, il y a 3 fois plus de forces policières, mais la criminalité est 5 fois plus élevée. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc, c'est ça qui est la question.
Ouais.
Mais clairement, ça prend des approches préventives qui demeurent la meilleure solution. C'est un mythe de penser que plus on va ajouter de policiers, mieux on va combattre la criminalité.
Ouais, sauf que je suis d'accord avec toi qu'il faut intervenir sur le plan socio-économique, d'intervenir auprès des jeunes aussi pour éviter qu'ils tombent justement dans cette espèce d'engrenage de la violence et du crime là dans certains quartiers plus défavorisés, mais ça règle pas la situation à court terme. Puis là, les gens du secteur qui disent « moi, je veux déménager parce que j'ai peur que demain, ça se reproduise puis que ce soit mon enfant qui soit une victime collatérale de ces fusillades-là », eux réclament une intervention rapide et là il y a juste les policiers qui peuvent intervenir là. C'est pas en envoyant en créant un parc que tu vas régler le problème à court terme là. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est clair. Mais ça prend les deux, il faut mobiliser les ressources immédiatement. Là tu as tout à fait raison et je pense que le SPVM a raison de le faire conjointement avec la Sûreté du Québec. Je pense qu'il faut intervenir rapidement et fortement. En même temps, il faut orchestrer une stratégie. Louis, il y a des initiatives qui fonctionnent. Les groupes communautaires, on les a entendus, les intervenants communautaires, ils ont manque de ressources. Effectivement, il faut travailler avec ces groupes-là qui interviennent auprès des jeunes. Et quand il n'y a pas d'organisme ou de groupe, il faut développer le leadership dans les quartiers. Il faut les accompagner, les soutenir. Tu sais, il y a un concept qui s'est développé dans l'Ouest canadien, qui s'appelle les hubs, c'est-à-dire des pôles de concertation. Et les gens, évidemment, le leadership appartient aux policiers. Mais les gens qui sont autour de la table, c'est des gens des services sociaux, du service scolaire, du milieu communautaire, de la ville en termes d'aménagement, d'infrastructure, des différents ministères. Donc, ça prend une stratégie concertée et travaillée sur le long terme.
Ouais,
mais tu as tout à fait raison, il faut faire les deux. Il faut initier ces stratégies-là, mais intervenir en attendant parce qu'il y a un problème aujourd'hui.
Puis l'autre affaire, la réaction que j'ai eue hier, parce que là, on met beaucoup d'argent dans des unités pour saisir des armes à feu. OK? Parce que, évidemment, si les jeunes se tirent dessus, entre autres, ou pas juste les jeunes, là, il y a un monsieur de 63 ans qui est mort hier, là, qui avait un passé criminel assez lourd, là. C'est pas juste des jeunes là, qui se font tirer, là. Mais il reste qu'il y a un accès en ce moment aux armes prohibées qui est assez facile. Puis je comprends là, qu'on veuille saisir ces armes-là et les enlever du marché, mais une arme tout seul, ça tire pas sur le monde.
Voilà.
Tu sais, il y a quelqu'un derrière là, qui tient l'arme. Alors, c'est là qu'il faut intervenir pour éviter qu'on tombe dans cet engrenage-là.
Mais, et on le sait, Louis,
on le sait. C'est un problème qui est extrêmement complexe.
Oui, tout à fait. Et la frontière canado-américaine, bon, on sait qu'il y a des armes qui passent, mais tu as tout à fait raison. Ouais. C'est qui tient l'arme? Et je pense que c'est là qu'il faut intervenir en amont. Ça a l'air vertueux, tout ça, mais sauf que il y a des cas au Canada où on a changé ces approches-là. On est moins réactif, on est davantage préventif, et ça donne des résultats, des résultats qui sont mesurables. Donc, je pense qu'il faut, de façon urgente, un peu comme les phénomènes de violence conjugale, par exemple, il y a eu un blitz, les gens se sont concertés, les ministères. Je pense que à l'échelle locale, il faut intervenir de cette façon-là.
Bon, en quelques secondes, le passeport liberté que voudrait instaurer Dominique Anglade, est-ce que c'est une bonne idée de déployer ce passeport-là maintenant?
Je penserais pas. J'ai l'impression que Mme Anglade, je sais pas si elle était en vacances, mais on dirait qu'elle vient de se réveiller. Elle exige maintenant le déploiement de son passeport liberté là en matière d'appropriation politique là, c'est assez solide. Ouais. Quand on lit son Facebook, Louis, ça donne l'impression que les libéraux viennent d'inventer le concept du passeport vaccinal qu'ils appellent le passeport liberté. C'est une mauvaise idée pour la simple et bonne raison que lorsque le ministre Dubé a lancé l'idée le 8 juillet, évidemment, il voulait laisser le temps aux gens de se faire vacciner, donc d'avoir les deux doses qui étaient dorénavant disponibles, qui étaient accessibles, parce qu'il y a des gens, et il y en a plusieurs, semble-t-il, qui sont en vacances, qui ont déjà un rendez-vous pour une deuxième dose. Et évidemment, l'objectif, c'est le 31 août, on veut atteindre des cibles. Bon, c'était 75%, mais ça va devenir 80-85%.
Mais pourtant, il y a plein de monde qui sont d'accord avec cette idée-là, là. Entre autres les gens d'affaires. Le sondage qui a été fait à Montréal par la Chambre de commerce, qui démontre que je pense que c'est 78% des commerçants qui disent qu'ils seraient d'accord avec ça.
Oui, il y a un appétit et moi je pense, à mon avis, le gouvernement devrait l'annoncer pour le 1er septembre, comme la ville de New York le fait pour le 13 septembre, l'annoncer maintenant, oui, on s'en va là, ça je pense ce serait intéressant comme stratégie, mais le faire à ce moment-ci, l'implanter à ce moment-ci, je pense que ça pénaliserait beaucoup de gens qui ont cette volonté, qui ont ce rendez-vous et c'est pas urgent, on comprend qu'à Trois-Rivières ça chauffe un peu, le ministre Boulay a dit, écoutez, on peut utiliser rapidement le passeport vaccinal pour venir à bout, pour lancer ce signal-là à Trois-Rivières. Mais s'il y avait une catastrophe, Louis, aujourd'hui, oui, il faudrait procéder. Mais je pense qu'on est loin d'être c'est loin d'être le cas actuellement. Moi, je pense qu'on devrait maintenir la cible pour le 1er septembre.
On va poser la question à Mme Anglade. Elle va être avec nous un petit peu plus tard dans cette émission. Merci, Bernard.
Merci. Bonne journée.
À demain.